Joël, Sarah, Jean-Michel, 8h-9h, format A3.
Comment remettre l'humain au centre de la technologie?
C'est l'une des questions qui sera abordée demain à la HLG Arc de Saint-Imier lors d'une table ronde intitulée « Croissance, décroissance, comment sortir de l'impasse ?» L'un des invités est l'ethnologue Philippe Jolin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur, mais vous n'enseignez pas seulement à de futurs ethnologues, mais aussi à des ingénieurs. En quoi est-ce que l'ethnologie est une discipline qui les intéresse?
L'ethnologie est une discipline qui devrait les intéresser et qui les intéresse. Je dis devrait parce qu'on devrait répliquer l'expérience, je pense, dans d'autres écoles. Ça existe à travers le monde. Tout simplement parce que je pense que les ingénieurs ont eu longtemps tendance à oublier qu'un fait technique était un fait social et que les technologies, les choix technologiques qui sont faits par eux dans les laboratoires et dans les entreprises peuvent avoir aussi un impact sur les futurs utilisateurs de ces technologies. Et le rôle de l'ethnologue, le rôle de l'anthropologue, c'est bien de faire prendre conscience en fait aux ingénieurs que derrière un choix technique, il y a un choix humain, environnemental, social, culturel, et qu'il faut le prendre en compte. Voilà. Alors,
qu'est-ce que la technologie peut apporter à la discussion lorsqu'on se demande à quoi va ressembler la technologie de demain ?
Ce qu'elle peut apporter à la discussion, je pense que quand on parle de technologie, derrière tout cela, et surtout dans une perspective d'avenir, je pense qu'elle nous amène à repenser la notion de progrès. Quelle idée on a du progrès pour demain? Est-ce que, comme pendant longtemps, on pense que le progrès est le progrès technique, on se rend bien compte maintenant que, à travers les problèmes environnementaux auxquels on est confronté, et les problèmes humains, bien sûr, qui vont avec, la notion de progrès technique ne suffit pas. Donc, je dirais que penser la technique, c'est de demain, c'est penser avant tout à un projet de société pour demain aussi.
Et puis, les futurs ingénieurs auxquels vous vous adressez notamment, ils sont surpris d'avoir justement un anthropologue qui vient leur dire « Attention, avancez techniquement, technologiquement, c'est bien, mais pensez au projet qu'il y a derrière et puis pensez pas uniquement en matière d'avancée technologique. » C'est quelque chose qui les surprend ou alors ils ont tout à fait... ils vont dans le même sens et puis votre intervention, votre discours les conforte dans leur opinion?
Alors écoutez, c'est étrange parce que c'est vrai que dès les premiers cours, ils sont un peu désemparés en se disant « Mais quel est cet anthropologue qui va nous donner des cours, qui va nous parler de territoires lointains, de cultures lointaines ?» J'utilise beaucoup d'exemples exotiques pour montrer le contraste, pour accentuer le contraste et entrer dans... qu'est-ce que la culture, qu'est-ce qu'un système de représentation peut avoir comme influence sur des formes d'appropriation d'un objet technique, ce genre de choses. Et puis, curieusement, les générations qui viennent, là, actuellement, sont très sensibles à ces dimensions humaines. Est-ce que c'est lié au fait qu'on en parle beaucoup dans les médias, qu'on parle beaucoup d'environnement, qu'on parle beaucoup de problèmes d'emploi aussi pour demain? Voilà, les cours sont plébiscités par les étudiants ingénieurs, en tout cas, et je pense que les nouvelles générations sont préparées pour plein de raisons, hein, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, la place des médias. Je pense qu'il y a un discours ambiant qui va dans ce sens-là aujourd'hui. Et puis bien sûr, moi, mon rôle est au sein de la Haute École Arc Ingénierie d'insister, de leur donner des outils, en fait, pour intégrer cela dans leur futur projet de conception de technologie ou de produit.
Des exemples, justement, de comment est-ce qu'on utilise de l'ethnologie, enfin cette méthode de recherche pour mieux comprendre une société ou bien comment elle utilise différents moyens techniques. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner?
Ah, écoutez, il y a plein d'exemples. J'en donnerai plusieurs demain à la conférence. Prenons un exemple, je vais dire exotique. L'équipe au sein de laquelle je travaille a développé, dans le cadre de la technique de production d'or sans mercure, en Amazonie, avec, vous connaissez les questions d'orpaillage en Amazonie, avec la destruction de l'environnement, de la forêt, etc., etc. Donc il y a une espèce de mot d'ordre en ce moment qui est de dire arrêtons de consommer, de produire de l'or avec du mercure, proposons des technologies sans mercure. Et on se rend bien compte quand on va sur le terrain en Amazonie, quand on travaille avec les orpailleurs, parce que l'un des avantages de l'anthropologue, c'est d'aller sur le terrain, aller voir ce qui se passe concrètement. On se rend bien compte que toutes les techniques qui ont été conçues par des ingénieurs et qui n'ont pas recours au mercure, en fait, ne fonctionnent pas socialement. Pour plein de raisons, parce qu'elles utilisent d'autres produits chimiques, parce qu'elles ne sont pas suffisamment rapides en matière d'exploitation, etc., etc. Et donc le laboratoire au sein duquel je travaille a développé une technique de récupération des vapeurs de mercure, mais c'est une technique qui a été conçue avec les producteurs orpailleurs artisanaux du Pérou. Et on a aujourd'hui une technologie qui permet de récupérer 99% des vapeurs de mercure utilisées pour amalgamer l'or.
Comment ça se passe donc sur le terrain lorsqu'on est anthropologue et qu'on veut s'intéresser aux relations entre les hommes et les objets finalement? On va continuer d'en parler avec vous, Philippe Jolin.
Format A3.
Explorer les relations qui se tissent entre les hommes et les objets, c'est la mission de notre invité, l'ethnologue Philippe Jolin.
C'est une discipline qui a un nom, l'anthropotechnologie, un domaine de recherche qui amène à beaucoup voyager.
Philippe Jolin, vous avez évoqué juste avant l'exemple du ramassage de l'or en Amazonie, où il a fallu trouver une solution qui soit à la fois propre et aussi qui convienne à la population. Concilier les deux, c'est le plus souvent possible ou c'est quand même un défi?
C'est souvent un défi dans la mesure où il y a très souvent des contraintes de politique, ben, typiquement produire de l'or sans mercure, et puis une réalité sur le terrain. Donc notre objectif est véritablement de faire remonter en fait cette réalité du terrain en travaillant avec les personnes. Quand je parle de terrain, ce sont pas forcément des terrains exotiques, hein, on fait la même chose en entreprise aussi autour de technologies. Au niveau national, mais c'est vrai qu'il y a toujours ces tensions, il faut faire avec, parce que bah, les entreprises ont besoin aussi de générer des bénéfices, elles ont aussi besoin de vivre, de perdurer, et donc il y a toujours cette tension entre les choix techniques et puis qui répondraient aux besoins des utilisateurs, je dirais, et puis les contraintes économiques du moment, voilà.
Les avancées technologiques, elles ont la cote, en tout cas ici, chez nous, en Occident. Cette façon de voir la technologie comme bénéfique, elle est partagée dans les différentes sociétés dans lesquelles vous avez pu travailler jusqu'à présent?
Oui, elle est partagée, pas dans toutes, mais effectivement, elle est partagée parce que, pour plein de raisons, ça peut permettre d'améliorer les conditions de travail et de vie de certaines populations dans certaines entreprises. Ça c'est aussi important, et puis il y a très souvent au sein des populations avec lesquelles on travaille, je veux dire, une prise de conscience de ce qui se passe chez nous aussi, de bon et de moins bon, quand on voit les répercussions qu'ont eu certains choix technologiques sur certaines dynamiques environnementales. Je pense que certaines des personnes avec lesquelles on travaille n'ont pas véritablement envie que ça se réplique chez elles.
Et voilà. Puis des fois, il y a aussi un peu un décalage entre certains outils technologiques, je pense aux smartphones par exemple, qui sont répandus maintenant dans quasiment toutes les sociétés du monde, oui. Alors qu'à côté de ça, on a des moyens de travailler la terre, de chercher sa subsistance, qui est beaucoup plus basique, on va dire.
Oui, alors là, on aborde un problème une question qui est intéressante, parce qu'on a effectivement des innovations qui vont devenir de véritables innovations. Il n'y a d'innovation qu'à partir du moment où une technologie rencontre ses utilisateurs. Et donc là, on peut vous parler du smartphone. Le smartphone est de fait une technologie qui est utilisée à travers le monde, qui n'est pas présente partout. Je pense à la Tanzanie, où nous avons un projet de gestion de la ressource en eau, par exemple. Le smartphone n'est pas encore arrivé dans une bonne partie de la Tanzanie, mais ça arrive, et si ces technologies sont utilisées, c'est bien parce qu'elles répondent à un besoin, à une demande des utilisateurs.
Restez donc à l'écoute de ces utilisateurs, de l'humain finalement que doit servir la technologie. Ça fait partie de votre travail, Philippe Jolin. Vous participerez demain à cette table ronde intitulée « Comment imaginer demain, croissance-décroissance, comment sortir de l'impasse ?» Ce sera donc à la Haute École Arc d'ingénierie à Saint-Imier, de 19h30 à 21h30. On mettra toutes ces informations sur la page Format A3 de notre site. Et on vous remercie beaucoup d'être participé à notre émission ce matin.
Merci beaucoup à vous.
Et puis bonne journée.
Belle journée.
Bonne journée.
À bientôt.
Bonne journée.
A3, c'est plus sympa. Format A3.